Voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venu. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi 30 juillet 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. La coordination avec Téhéran se poursuivra jusqu'à ce que tout le territoire syrien soit libéré, a souligné le président syrien de Bachar al-Assad. Et son ministre des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, qualifie d'exemple à suivre les relations des syro-iraniennes. Le ministère iranien des Affaires étrangères se dit préoccupé par la poursuite des affrontements frontaliers opposant les forces de la République d'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Et Cheikh Ibrahim Zakzaki a été libéré après de 5 ans derrière les barreaux. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé au cours de sa rencontre avec le président du Parlement iranien Mohammad Bagheri Ghalibaf que la coordination existante entre l'Iran et la Syrie dans la lutte contre le terrorisme avait eu des résultats positifs sur le terrain, soulignant que cette coordination se poursuivra jusqu'à la libération de tout le territoire syrien et l'éradication des réseaux terroristes. Les deux parties ont mis l'accent sur le rôle important du Parlement en Syrie et en Iran pour ouvrir de nouvelles perspectives de coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique, non seulement dans le secteur gouvernemental, mais aussi en activant la coopération entre le secteur privé des deux pays pour que les deux peuples amis puissent faire face à la guerre économique, l'embargo et les sanctions imposées contre eux. Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé que l'Iran est un partenaire essentiel pour la Syrie qui a soutenu le peuple syrien à faire face à la guerre terroriste ainsi que dans tout le domaine. De son côté, Mohammad Bagheri Ghalibaf a fait savoir que les élections qui s'étaient déroulées récemment en Syrie et en Iran montrent la détermination de deux peuples à de tenir ces élections malgré des pressions exercées contre eux. Personne ne peut s'opposer à la volonté du peuple, a-t-il souligné. Faisal Miqdad, ministre syrien des Affaires étrangères, a rencontré cet jeudi Vahid Jalalzadeh, président de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien et la délégation qui l'accompagne. Les deux parties ont passé en revue les relations entre les deux pays et les moyens de les consolider dans les différents domaines pour renforcer les potentiels potentiel des deux pays face aux défis. Faisal Miqdad a indiqué que les Syriens sont fiers du rôle important que l'Iran avait joué pour soutenir la fermeté de la Syrie et ses potentiels face à la guerre terroriste qui la vise, qualifiant d'exemple à suivre. Dans tous les domaines, les relations entre la Syrie et l'Iran. Faisal Miqdad a réitéré la position de la Syrie, soutenant l'Iran face aux tentatives visant les accomplissements qu'il avait réalisés depuis la victoire de la révolution islamique, soulignant que les Syriens croient en la capacité de l'Iran à surmonter les difficultés. De son côté, Jalal Zadeh a assuré que les relations entre la Syrie et l'Iran remontent à des années avant la guerre visant la Syrie, faisant noter qu'elles se basent toujours sur la coopération, la coordination et l'échange du soutien dans les différentes questions. Le ministère iranien des Affaires étrangères s'est dit préoccupé par la poursuite des affrontements frontaliers opposant les forces de la République d'Azerbaïdjan et de l'Arménie avant d'appeler les deux parties à la retenue et à un règlement pacifique des différents frontaliers. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, s'est déclaré préoccupé par la poursuite des affrontements frontaliers entre les forces azerbaïdjanaises et arméniennes, tout en exprimant ses regrets pour les morts et les blessés des deux pays. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié de nécessité une retenue mutuelle, affirmant la nécessité pour les deux pays de surmonter les tensions et les conflits et l'impératif pour les parties de respecter les frontières internationalement reconnues. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné l'urgence de parvenir à une paix durable dans le Caucase du Sud dès que possible. Cheikh Ibrahim Zakzaki, chef du mouvement islamique du Nigeria, a été libéré après avoir passé 5 ans derrière les barreaux. Cette décision était attendue de longue date. Le tribunal de Kaduna, au nord du Nigeria, a relaxé et libéré le 28 juillet 2021 le chef du mouvement islamique du Nigeria, Ibrahim Zakzaki et de sa femme Zina Ibrahim. Le journal nigérian Vanguard a rapporté qu'au cours de l'audience qui a duré environ 8 heures, le juge a rejeté les fausses accusations contre Cheikh Zakzaki et de sa femme qui comprenaient le trouble à l'ordre public et l'établissement d'un rassemblement illégal et les a acquittés. En fait, le mouvement islamique du Nigeria réagit à ce verdict rendu par le tribunal. Ce jugement ne leur donne pas seulement raison, ainsi qu'à tous les membres du mouvement islamique du Nigeria au Nigeria, mais il est aussi une victoire de la persévérance face à l'extrême persécution. Réagit ce mouvement dans un communiqué avant d'ajouter « C'est une victoire de la vérité et de la justice contre la tyrannie et l'impunité ». Accueilli en héros, le judoka algérien Fethi Nourine s'est dit fier d'avoir refusé d'affronter un adversaire israélien aux Jeux Olympiques de Tokyo par solidarité avec la cause palestinienne. J'ai été choqué quand j'ai vu que le tirage au sort m'opposait au judoka de l'entité sioniste que je n'attendais pas, mais je n'ai pas hésité à prendre la décision de me retiré, a-t-il expliqué. Cette décision m'honore d'abord et m'honore ma famille, le peuple algérien et l'État algérien, car le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré que nous ne bénissions pas de la normalisation avec l'entité sioniste et que nous soutenons la cause palestinienne, a-t-il expliqué. Eh bien, avec cette dernière nouvelle, notre journal Information s'achève. Restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran est un partenaire clé de la Syrie, selon le président syrien Bachar al-Assad, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le président syrien Bachar al-Assad a salué l'Iran comme un partenaire clé pour son pays, soulignant que les deux nations continueront de lutter contre le terrorisme jusqu'à la défaite ultime des organisations terroristes. L'Iran est un partenaire clé de la Syrie, qui a soutenu le peuple syrien face à la guerre terroriste et lui a apporté son soutien dans tous les domaines, a déclaré Bachar al-Assad lors d'une rencontre avec le président du Parlement iranien Mohamed Bagher Ghalibaf et de la délégation de l'accompagnant. Cette rencontre a eu lieu mercredi à Damas. Le président syrien Bachar al-Assad a souligné que la coordination entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme a donné des résultats positifs sur le terrain et se poursuivra jusqu'à la libération de toutes les terres et la défaite des organisations terroristes. Pour sa part, Mohamed Bagher Ghalibaf, président du Parlement iranien, a déclaré que les récentes élections en Syrie et en Iran et la volonté des peuples syriens et iraniens de déterminer leur avenir prouvent l'échec des politiques de pression exercées contre eux et a souligné que personne ne peut s'y opposer de la volonté des deux nations. Au cours de leur rencontre, le président syrien et le président du Parlement iranien ont également discuté des relations bilatérales étroites entre les deux pays et de leur coopération constructive à différents niveaux. Les deux parties ont souligné le rôle essentiel joué par les parlements iraniens et syriens pour ouvrir de nouveaux horizons aux relations bilatérales, notamment dans le domaine économique, en activant la coopération entre les secteurs privés des deux pays, de manière à aider les deux nations amies à faire face à la guerre économique et à la politique de blocus et de sanctions qui leur est imposée. À la tête d'une délégation parlementaire, Mohamed Bagher Ghalibaf est arrivé mardi dans la capitale syrienne pour une visite officielle pour des entretiens de haut niveau sur diverses questions, notamment la coopération économique entre Téhéran et Damas. S'adressant aux journalistes à son arrivée à Damas, Ghalibaf a déclaré qu'un accord de coopération conjoint global était en cours d'élaboration par l'Iran et la Syrie et qu'il serait approuvé par leurs organes législatifs respectifs en temps voulu.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le et Débat. En Tunisie, le président Saïd a démis de ses fonctions le Premier ministre et a annoncé le gel des activités du Parlement pour un mois. Cette décision du président tunisien a en fait suscité diverses réactions. Il y avait surtout cette réaction du côté du parti Ennahda, du parti Ennahda, en fait le parti Ennahda qui a annoncé dans un premier temps vouloir, si vous voulez, défendre la Constitution, le parti d'Ennahda qui a accusé dans un premier temps le président d'avoir perpétré un coup d'État, mais ensuite le parti d'Ennahda a changé d'avis et mardi, le parti a appelé en fait au dialogue national pour sortir de la crise actuelle. Et du côté du président de Kais Saïd, il dit que voilà, de son objectif n'est pas, si vous voulez, de mener un coup d'État. Son objectif est d'essayer de sauver la Tunisie et le président Kais Saïd s'appuie sur l'article 80 de la Constitution qui permet au président de prendre des mesures exceptionnelles en cas de danger imminent pour le pays pour justifier sa décision. Comment peut peut-on expliquer ce qui se passe actuellement en Tunisie? On va vous en parler dans le cadre de cette émission avec deux invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage et on reviendra tout de suite après.
Le 23 juillet, soit 4 jours avant que le camp pro-US, pro-Israël tente de plus en plus à décrire comme un coup d'État anticonstitutionnel du président Saïd, juriste de formation, la Tunisie, État le plus endetté du monde, puisque le printemps arabe en a fait un otage du FMI, a annoncé avoir remboursé l'emprunt obligatoire de 506 millions de dollars, 500 millions de dollars en principal et 6 millions en intérêts, soit l'équivalent de 1,412,6 millions de dinars. Le rapport affirmait surtout que l'emprunt avait comme garant les États-Unis eux-mêmes et que ce modus operandi tunisien, n'ayant pas plu aux Américains, risquait de fermer de facto toute possibilité de prêt supplémentaire, surtout que Tunis refuse de prévoir des réformes éphémistes, d'avoir même un calendrier pour de nouveaux prêts. De plus, et depuis plus de 48 heures, la population tunisienne fait la sourde oreille aux appels à la manifestation lancée à tue-tête par les fréristes. Aux dernières nouvelles, Kais Saïd bénéficie du soutien des institutions sécuritaires et militaires après qu'il a rencontré leurs dirigeants. Le mouvement semble soigneusement calculé. Ensuite, l'absence d'une prise de position directe de la part de la Confédération tunisienne du travail, l'une des branches politiques les plus influentes, indépendantes et efficaces du pays par rapport à la démarche du président. Par contre, le secrétaire général adjoint de la Confédération a indirectement soutenu le président, déclarant que ces mesures n'étaient pas contre la Constitution et que le parti a adopté une position similaire. Puis, des dizaines de milliers de personnes ne sont pas descendues dans la rue pour soutenir la coalition Ennahda, comme on s'y attendait, et le petit nombre de députés ont rejoint le président devant le Parlement après sa fermeture par les forces de sécurité. Le Tunisien Kais Saïd a intelligemment empêché les escalades et la propagation du chaos. Il a attendu que l'état de colère et de ressentiment populaire atteigne son paroxysme et que ses adversaires partagent leurs convictions sur la faiblesse du parti pour prendre des mesures décisives comme celle qu'il a prise la nuit dernière. La destitution du premier ministre dissident et le gel des travaux du Parlement plutôt que sa dissolution. Les points forts du président Saïd résident dans son indépendance, ses mains propres et les 73% des voix pour la plupart des jeunes qu'il a obtenus lors des récentes élections présidentielles, sans oublier sa non-affiliation ni direction d'aucun parti politique et son rejet catégorique de la normalisation avec Israël. Un pressentiment dit qu'à l'interne, il y aura dans les jours, les semaines et les mois à venir une désaméricanisation galopant, voire l'émergence d'un axe maghrébin anti-US Israël, anti-Grand Maghreb.
Merci infiniment d'avoir choisi cette émission. On va partir tout de suite à Damas, capitale syrienne, pour rejoindre une analyste franco-syrienne. Il s'agit de Madame Aïssa Midani, qui est en ligne, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, depuis Damas avec nous pour cette émission. Madame Midani, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Bonjour à vos invités.
Beaucoup, et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir. Bonjour à vos téléspectateurs et bonjour à mon collègue.
Merci, votre collègue pour l'émission d'aujourd'hui, c'est Madame Aïssa Midani, Luc Michel. Madame Midani, je viens de lancer le sujet. Comment analysez-vous ce qui se passe actuellement en Tunisie, s'il vous plaît?
En fait, je trouve que c'est effectivement le président Kais Saïd a eu le courage de ses idées. Et le courage de ramener la Tunisie en fait dans la voie du peuple, je dirais, puisque de toute façon les cet ordre de dissolution, je dirais, ou d'arrêt ou de geler l'Assemblée nationale qui est présidée par Ammar Dor, qui sont les frères musulmans, ont été ont paralysé le pays d'un côté. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que les frères musulmans ont été les grands protecteurs des terroristes. Hein. Ce sont eux qui ont recruté des terroristes qu'ils ont envoyés en Syrie et ailleurs dans le monde arabe. Que c'était aussi eux qui sont responsables des assassinats de deux grands leaders politiques, Ibrahim Shaibi et Shalbi. Et les deux, qui sont des grands militants tunisiens. Il y a aussi le fait que, ils sont... je voudrais rappeler un fait, c'est que la loi Bourgane, Ghannouchi, le lendemain de la réunion du gouvernement et de la présidence de l'Assemblée nationale, il est parti en cachette rencontrer Erdogan en soi-disant rencontre privée. Ce qui a été soulevé par pas mal de personnalités du Parlement lui-même, lui demandant de démissionner et disant que de toute façon, ils ne sont absolument pas honorés d'être présidés par quelqu'un qui joue l'office d'un traître. Hein. Et qui va rencontrer des puissances étrangères juste au lendemain de la précision de la de la stratégie du pays et de stratégie de développement. Un dernier point qui est très important aussi du côté de qui milite dans le sens de Raïs, qu'il a affirmé à plusieurs reprises que de toute façon toute normalisation des rapports avec Israël est une grande trahison. Et ça, c'est un point qui est très important. Et on voit que les frères musulmans jouent dans le sens plutôt d'arrondir les angles et puis d'aller dans le sens des relations avec Israël, comme on a vu avec l'Arabie Saoudite, les Émirats et Bahreïn aussi. Et et même le Maroc, qui, d'ailleurs, les réactions qui se sont faites à ça, la réaction de Joe Biden en disant « Ah, nous avons un regard spécial sur la Tunisie pour la démocratie, nous surveillons de près », la réaction d'Israël aussi qui commence à dire « Là, on a peur que la Tunisie influe les positions au Maroc et puis puisse créer un axe au niveau des pays du Maghreb contre Israël, etc. » Donc ça en dit long déjà sur la nature de cette action. Alors, un dernier point que je voudrais ajouter, il est certain, et il faut le savoir, que la majorité du pays, au niveau du peuple, la majorité est avec le président Raïs Saïd. Ce qui a poussé, d'ailleurs, à Mardor à se ranger du côté du dialogue national et à empêcher... a refusé aussi, après avoir appelé à des manifestations importantes, etc., pour la démocratie. Comme ça n'a pas marché, et bien maintenant, il se range aussi du côté du dialogue national, disons.
Merci beaucoup, Madame Midani. C'est vrai, le parti Ennahda a appelé au dialogue national pour sortir de la crise actuelle. Madame Midani, vous avez exprimé votre point de vue sur les positions d'Ennahda. Et les portes de Presse TV français sont ouvertes également aux responsables du parti Ennahda s'ils souhaitent, par exemple, s'exprimer sur ce que vous venez d'expliquer comme analyse, comme point de vue sur notre groupe de chaînes, mais quand même, en fait, les positions et les points de vue des experts, toujours, c'est comme ça, sur notre chaîne Presse TV, n'engagent qu'eux-mêmes. C'est pourquoi, en fait, les partis, les responsables du parti Ennahda également, peuvent, s'ils le souhaitent, en fait, s'exprimer sur notre chaîne. Luc Michel, venez d'entendre l'analyse de Madame Midani. Votre analyse, s'il vous plaît.
Écoutez, la Tunisie, c'est l'échec de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Ça a été un des premiers pays touchés, et depuis, c'est un pays en catastrophe nationale. Le tourisme, qui était la principale revenu, il a du plomb dans l'aile. La stabilité politique existe et le terrorisme a fait son apparition. Quel était le plan de départ du printemps arabe américain? C'était d'associer les partis des frères musulmans à parfois des composantes militaires ou des composantes nationales. Au bout de maintenant 10 ans, c'est un échec complet. La conjoncture actuelle, ça fait que les frères musulmans n'ont plus le vent en poupe. Vous avez vu que pour la première fois, un pays en Europe, c'est l'Autriche, a interdit les frères musulmans purement et simplement. Et la Tunisie, maintenant, est un nouvel échec. Il faut constater qu'en ce moment, la Turquie d'Erdogan, qui est le parrain des frères musulmans, Erdogan dirige une véritable internationale avec une branche militaire, c'est les organisations Tafkiris que nous appelons djihadistes en Europe, et une branche politique qui sont les frères musulmans justement, avec leur variante arabe directe ou leur variante libyenne comme les confréries Sédoucis. Aujourd'hui, Erdogan a été rappelé à l'ordre, il a été remis dans le cadre des activités de l'OTAN, il a été obligé de faire profil bas avec la France, avec la Grèce, et aussi avec l'Égypte, qui est l'allié des États-Unis dans la région. À partir de ce moment-là, ce qui arrive aux frères musulmans, c'est également le rétropédalage des Turcs, c'est-à-dire que le parapluie turc qui protégeait les frères musulmans, il n'est plus aussi effectif. Ils vont voir maintenant si d'autres pays vont suivre, donc pays européens qui ont interdit les activités des frères musulmans, mais on sait qu'il y a actuellement un très grand scandale politique en Belgique. En Belgique, il y avait une commissaire du gouvernement nommée par le gouvernement régional bruxellois actuel. La Belgique, c'est un État fédéral. C'était une militante arabe proche des frères musulmans. Elle a été dénoncée par un rapport de la Sûreté de l'État. Elle a dû démissionner. Et maintenant, on en a fait, l'aile droite du gouvernement bruxellois a fait de ce dossier un dossier de priorité nationale. C'est donc maintenant le deuxième pays européen où on s'intéresse aux frères musulmans. Vous avez vu que la loi française vise à la fois actuellement sur le séparatisme, elle vise à la fois les frères musulmans et les confréries turques du genre Miligorus ou du genre Delougri. Et donc ce qui se passe maintenant en Tunisie est très intéressant puisque c'est le transfert de cette offensive aux frères musulmans dans le territoire arabe, ici en Afrique du Nord. Maintenant, l'aspect purement tunisien, évidemment, la population est fatiguée, elle est épuisée par la crise économique qui est purement la résultante du printemps arabe, qui a été en fait un hiver glaciaire, et donc il est tout à fait normal que le président ait tenté ce coup de force. Le but, c'est de reprendre la main, d'éjecter les frères musulmans de la vie politique et de se faire soutenir par une majorité. C'est l'un des dossiers les plus intéressants à suivre actuellement dans le monde arabe, mais aussi en Europe occidentale.
Madame Midani, sur le plan de la politique intérieure, comment analysez-vous cette décision du président tunisien de limoger, de démettre de ses fonctions le Premier ministre et d'annoncer le gel des activités du Parlement pour une durée d'un mois en invoquant l'article 80 de la Constitution, je viens de le dire tout à l'heure au début de notre émission, qui dit que voilà, lorsque le pays est confronté à un danger imminent, cet article permet, si vous voulez, au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles, Madame Midani.
Tout à fait. Effectivement, le pays était en danger imminent puisque de toute façon tout était paralysé. et on n'arrivait pas à se sortir de ce schisme où ça allait présumer un schisme du pays. Donc, le président a pris les devants avant qu'il y ait la catastrophe pour le faire. Et bon, bien sûr, il y en a qui crient au coup d'État, etc., puisque l'interprétation de ces conditions, nécessaires à l'utilisation de cet article de la Constitution, n'est pas nécessairement contraignante, je peux dire. L'explication n'est pas évidente pour tout le monde. Mais le président a cette prérogative et il a ce droit. Il a jugé que la situation était suffisamment grave qu'il est dans l'obligation de sauver le pays en prenant cette décision et surtout en levant, disons, en essayant de geler toutes les décisions, surtout l'Assemblée nationale qui est présidée par Al-Marda, par Al-Ranouchi. Et d'ailleurs, on suivait un certain le Premier ministre, mais aussi on suivait un certain nombre de limogeages de personnalités qui sans doute reviennent à Marda et qui ont occupé aussi des postes les plus importants, notamment le poste de responsable de la compagnie du gaz et de l'électricité, qui sont vraiment la colonne vertébrale de l'économie tunisienne, de l'économie en général. Donc, en fait, c'est une décision que je pense être effectivement salvatrice. Hein. Et on espère que le président Kais Saïd a un plan de redémarrage du pays et puis qui soit clair et qu'il va pouvoir mettre en application rapidement de manière à permettre aux Tunisiens d'avoir non seulement la sérénité au niveau de leur avenir, mais surtout d'avoir un minimum de solutions pour leur vie quotidienne, qui n'a cessé de s'aggraver d'ailleurs depuis le début de ce que vous appelez le printemps, de ce qu'on appelle communément le printemps arabe, et qui a été une volonté effectivement de casser tous les pays arabes et de les disperser et puis de les transformer en pays et en état en état d'échec. Voilà. Et je pense que le président Saïd a aussi cette envergure. Il a aussi, quand on voit ses positions jusqu'à présent, on voit qu'il est plutôt pour le retour vers l'arabité, vers le nationalisme arabe et vers les pays qui résistent et qui s'affirment, et vers la souveraineté de la Tunisie, une souveraineté totale, donc vers laquelle il aspire.
Mmh. Luc Michel, vous l'avez dit, Madame Midani aussi, évoqué en fait ce dialogue national s'avère désormais important, d'autant plus que le président tunisien est appuyé, à en juger par des sondages et des analyses, et par la majorité de la population. Surtout, il est appuyé par les jeunes tunisiens. Alors, le résultat de ce dialogue national, Luc Michel, s'avère en fait décisif et important pour la Tunisie, également pour la région, n'est-ce pas, Luc Michel?
C'est très important parce que actuellement, il y a en Afrique du Nord, à cause de la Libye, une zone d'instabilité importante qui se prolonge vers le Mali et vers la Centrafrique, où à la chute de la Jamahiriya, les Français, les Américains ont appliqué des scénarios à la Libyenne. Vous savez qu'il y avait même un Conseil national de transition, comme on met Gazi à Bangui. Donc, il faut maintenant essayer de rétablir de l'ordre dans la région. Il y a un point de stabilité qui est l'Algérie, mais malheureusement, l'Algérie est contrebalancée par le Maroc. Le Maroc, c'est le point d'entrée des Américains en Afrique du Nord. Et le Maroc a le statut d'allié privilégié de l'OTAN. Il y a eu des grandes manœuvres qui se sont tenues il y a 3 semaines, qui s'appelaient Lyon africain 2021. Elle unifiait l'armée américaine, l'Afrique, l'armée marocaine, une dizaine d'armées africaines. Ils ont déployé des troupes aux frontières de l'Algérie, du Sahara espagnol, du Sahara ex-espagnol, mais surtout du Mali. Le but, c'était évidemment d'intimider les Russes, en particulier les colonels pro-russes de Bamako. Donc, voir ici la Tunisie échapper à l'orbite des frères musulmans, c'est-à-dire actuellement échapper à l'orbite de la Turquie. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2019, la Turquie, qui est la deuxième armée de l'OTAN, elle n'est pas venue seulement appuyer les castristes à Tripoli, elle a repris le contrôle de la Libye en grande partie pour le compte des Américains et de l'OTAN. Voir donc cette Tunisie échapper à cela, et je l'espère se rapprocher de l'Algérie, ça peut constituer un pôle de force pour ramener la stabilité dans la région. Actuellement, cette stabilité n'existe plus. Il y a une grande zone d'instabilité qui s'étend aujourd'hui du golfe de Sirte en Libye jusqu'au golfe de Guinée. Il y a actuellement une opération occidentale de déstabilisation du golfe de Guinée. Il est donc important que sur la partie, le versant du golfe de Sirte, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie et la Libye, un pôle de stabilité se rétablit. C'est moi ce que j'attends, malheureusement, de ce qui arrive à la Tunisie. La Tunisie, comme la Libye, ce sont des pays, évidemment, qui payent de plein fouet ce soi-disant printemps arabe. Ils connaissent la misère, ils connaissent le chaos, ils connaissent le terrorisme, ils connaissent les frères musulmans. Il est temps que tout cela s'arrête. Ce qui laisse un espoir principal, c'est que le printemps arabe a été possible parce qu'il y avait le mécontentement de la jeunesse. La jeunesse a été manipulée, notamment par les organisations de George Soros. Dans tous les pays, elles se sont lancées à l'assaut des régimes nationalistes arabes. Ça aboutit à une catastrophe. Voir maintenant la jeunesse tunisienne revenir derrière un président qui défend ce nationalisme arabe, c'est un signe d'espoir.
Merci. Merci beaucoup, Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à Madame Aïssa Remidani, analyste franco-syrienne, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.
Parole d'experts.
La participation de deux navires iraniens à la parade navale de la Russie est un grand honneur pour la marine russe, a déclaré l'amiral Nikolai Evmenov. Quelle est l'importance de cette participation iranienne au défilé naval de Saint-Pétersbourg en Russie? Écoutons à ce sujet l'analyse de Luc Michel, géopoliticien.
C'est un événement géopolitique majeur. Vous savez que nous sommes entrés dans la guerre froide 3.0 qui prépare dans une vingtaine d'années une nouvelle guerre. Et la troisième guerre mondiale, il faut pas. Les Américains l'appellent comme ça, les géopoliticiens américains comme George Friedman de Stratford et de Geopolitical Futures, et ils prévoient cette guerre mondiale entre 2050 et 2060. Il y a donc deux blocs antagonistes qui se constituent. Le bloc américano-occidental, qui est une alliance de puissances maritimes, la puissance maritime américaine qui est centrale. Il y a comme allié la puissance maritime britannique, la France qui se redéploie comme une puissance maritime mondiale. Mais il faut pas oublier que la France a le deuxième maritime, domaine maritime mondial de plus de 10 000 km² après les États-Unis. Grâce à ce qu'on appelle les confettis de l'Empire, les petits résidus de l'Empire colonial sur tous les continents, notamment Mayotte, notamment la Guyane française, notamment Mururoa dans le Pacifique. Il y a la puissance maritime émiratie en mer Rouge. Il y a en Australie, il y a l'Australie, il y a le Japon face à la Chine. Face à cela, il y a le bloc de l'Est qui se constitue autour de puissances continentales qui sont des puissances historiques, la Russie, qui est la puissance continentale centrale, le Heartland, comme disent les géopoliticiens anglo-saxons, et qui est un vieil empire, puisqu'elle est l'héritière de l'Empire romain, c'est 25 siècles d'histoire. Moscou dit qu'elle est la troisième Rome, la première Rome, et la deuxième Rome, c'était Byzance. Il y a votre pays, l'Iran, qui est la puissance montante de l'Eurasie, qui est un vieil empire de 25 siècles, qui existait avant Athènes. Il y a la Chine, qui est un vieil empire de 22 siècles. Donc, ce sont des empires historiques. Le bloc de l'Est, il est vertébré autour d'un axe géopolitique Moscou-Pékin et d'un axe stratégique Moscou-Téhéran. Les puissances de l'Est, elles ont compris une chose, c'est une leçon de la géopolitique, c'est que dans toute l'histoire, depuis 24 siècles, la première opposition, c'était Rome contre Carthage. Rome, c'était la puissance continentale. Carthage, c'était un peu les États-Unis d'il y a 24 siècles, c'était la puissance maritime. La puissance continentale, elle a vaincu la puissance maritime que lorsqu'elle a été capable de lui disputer la domination des mers. Ce qu'on a compris à Pékin, c'est ce qu'on a compris surtout à Moscou, mais à Téhéran aussi. À Moscou, il y a le plan de Poutine. Le plan de Poutine, il a été défini en 2018. Il vise à reconstituer la marine russe sur les six océans du globe, comme lors de Brejnev, qu'on appelait l'Africain, qui avait développé la puissance maritime soviétique. Et les Iraniens, ils sont sortis pour la première fois, il y a quelques semaines, de la mer Rouge et du Golfe Persique. Ils se redéploient au Golfe de Guinée, ils se redéploient dans l'océan Atlantique, ils se redéploient dans l'océan Indien. Pour la première fois, la marine iranienne, elle est présente face aux États-Unis dans l'océan Atlantique. Elle a contourné l'Afrique, elle est rentrée dans la Manche et dans la mer Baltique. Elle est actuellement donc à Saint-Pétersbourg avec le chef de la marine qui est l'amiral Gandazi. Elle est en train, comme invitée d'honneur, saluée par la Russie, qui est l'allié maintenant stratégique prioritaire de Téhéran. Elle est saluée comme une grande marine internationale. Elle est à Saint-Pétersbourg pour fêter donc les 325 ans de la marine russe. L'amiral Gandazi, c'est pas seulement le chef de la marine iranienne, c'est l'architecte de la pénétration iranienne en Afrique. Les Iraniens, depuis un an et demi, spectaculairement, ils arrivent en Afrique, ils appuient les Russes et les Chinois, ils sont en train de s'attaquer particulièrement aux anciens pays de la France-Afrique et ils sont en train d'aider au retournement avec les Russes de ceux-ci. Il y a le retournement d'Alpha Condé en Guinée-Conakry qui s'est tourné vers les Russes, les Chinois et les Iraniens. Il y a le retournement du Bénin de Patrice Talon. Il y a le retournement du Congo-Brazzaville qui vient d'ouvrir les ports du Congo-Brazzaville à la marine russe. Il y a surtout spectaculaire le retournement de Macky Sall. Macky Sall qui a été amené au pouvoir en 2015 par la France et les États-Unis et George Soros. Aujourd'hui, il est leur ennemi. Le Sénégal de Macky Sall, c'est le premier pays africain qui a des lois russes et chinoises qui interdisent les activités et les financements de George Soros au Sénégal. Il y a, bien entendu, l'alliance de l'Iran, de la Russie, de la Chine avec la Guinée équatoriale qui est au centre de l'alliance avec le bloc de l'Est. La Guinée équatoriale, en 2015, elle a ouvert les ports de la Guinée équatoriale à la marine russe. Maintenant, l'alliance, elle est renouvelée avec le Congo-Brazzaville. Dans le golfe de Guinée, la marine iranienne, elle est présente dans l'alliance. Elle a fait des manœuvres, notamment il y a quelques semaines, avec la marine russe. Mais la marine iranienne, elle est arrivée dans l'océan Indien.
pourquoi l'Allemagne a gagné et l'Italie a perdu. La chancelière allemande Angela Merkel a résisté aux pressions de trois administrations, Obama, Trump et Biden, pour effacer le Nord Stream 2, le gazoduc qui flanque le Nord Stream inauguré il y a 10 ans, redoublant la fourniture du gaz russe à l'Allemagne. Par contre, a échoué le South Stream, le gazoduc d'Eni Gazprom. Negri conclut avec raison que Merkel a gagné la partie que nous avons perdue. Immédiatement surgit la question, pourquoi l'Allemagne a-t-elle gagné et l'Italie perdu ? Le titre du Washington Post est significatif. USA et Allemagne atteignent un accord sur le pipeline russe mettant fin à la dispute entre alliés. L'accord stipulé par le président Biden avec la chancelière Merkel a été donc et est solidement accueilli par un groupement bipartisan du Congrès chapeauté par le sénateur républicain Rich qui propose une loi contre le malveillant projet russe. Donc en effet, l'accord est une trêve comme le définit Negri. La raison pour laquelle l'administration Biden a décidé de le signer est de mettre fin à la dispute qui détériorait les rapports avec l'Allemagne. Celle-ci a cependant payé le pizzo, donc la rançon payée à la mafia, au boss USA en s'engageant, comme demandé par la sous-secrétaire d'État Victoria Nuland, à protéger l'Ukraine, de fait déjà membre de l'OTAN, par un fonds d'investissement d'$1 milliard qui la dédommage sur ses entrées diminuées, puisque les gazoducs jumeaux Nord Stream passent par la mer Baltique en contournant son territoire. En contrepartie, l'Allemagne a, du moins pour le moment, l'autorisation US d'importer de Russie 55 milliards de mètres cubes annuels de gaz naturel. Le gazoduc est géré par le consortium international Nord Stream AG, constitué de 5 sociétés. La russe Gazprom, les Allemands Wintershall et Peggy, et l'hollandaise Netherlands Gasunie et la française Engie. L'Allemagne devient ainsi le hub énergétique pour la distribution du gaz russe dans le réseau européen. Ce même rôle aurait pu être tenu par l'Italie avec le gazoduc Nord Stream. Le projet était né en 2006 pendant le gouvernement Prodi II avec l'accord qu'avaient signé Eni et Gazprom. Le gazoduc avait traversé la mer Noire dans des eaux territoriales russes, bulgares et turques, poursuivant via la terre à travers la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, la Slovénie et l'Italie jusqu'à Tarvisio, donc Udine. De là, le gaz aurait été distribué dans le réseau européen. La construction du pipeline avait commencé en 2012 et en mars 2014, la société Saipem, donc Eni, se voyait attribuer un premier contrat de $2 milliards pour la construction du tronçon sous-marin. Mais entre-temps, tandis que le putsch de Piazza Maidan précipitait la crise ukrainienne, l'administration Obama, de concert avec la Commission européenne, agissait pour couler le South Stream. En juin 2014, arriva à Sofia une délégation du Sénat états-unien dirigé par John McCain qui transmettait au gouvernement bulgare les ordres de Washington. Immédiatement était annoncé le blocage des travaux de South Stream dans lequel Gazprom avait déjà investi $4,5 milliards. Ainsi, l'Italie perdait non seulement des contrats de $1 milliard, mais la possibilité d'avoir sur son territoire le hub de distribution du gaz russe en Europe, d'où seraient dérivées de fortes entrées et un important développement d'emplois. Mais pourquoi l'Italie a-t-elle perdu tout ça ? Parce que le gouvernement Renzi, donc en charge de 2014 à 2016, et le Parlement ont accepté tête basse l'imposition de Washington. L'Allemagne de Merkel, au contraire, s'est opposée. Elle a ainsi ouvert la dispute entre alliés qui a contraint Washington à accepter le redoublement du Nord Stream, les USA conservant cependant la prétention de décider par quel pays l'Europe peut importer ou pas du gaz naturel. Un gouvernement italien oserait-il ouvrir une dispute contre Washington pour défendre l'intérêt national? Le fait est que l'Italie a perdu non seulement le gazoduc, mais sa propre souveraineté.
Amical.